Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Maïder Gérard, mais aussi Marc Gollery, dont Corentin Mansois, réalisé par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Sémaux.
Bonjour.
Journaliste au Monde, évidemment. On va parler de l'Iran aujourd'hui. Un an après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, la pression continue de s'accentuer sur Téhéran. En effet, après de nouvelles sanctions sur les secteurs pétroliers et bancaires, Washington vient de décider de nouvelles mesures punitives sur le fer, l'acier, l'aluminium et le cuivre iranien. Une conséquence de l'annonce de la suspension de plusieurs engagements pris par l'Iran dans le cadre de l'accord de 2015 et l'ultimatum lancé aux Européens. Et puis par ailleurs, les États-Unis mettent également la pression sur le plan militaire avec l'envoi dans la zone persique ces dernières heures d'un porte-avions de bombardier B-52. Donald Trump a même menacé de prendre d'autres mesures si l'Iran ne change pas radicalement d'attitude, a-t-il dit. Alors faut-il s'inquiéter de cette nouvelle escalade? Quel est le risque d'un conflit ouvert? Se dirige-t-on vers une guerre contre l'Iran? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Clément Terme. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques de Londres. À vos côtés, Julien Zarifian. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Cergy-Pontoise. Avant d'évoquer cette question, ces tensions entre Washington et Téhéran, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Chine.
Vous connaissez des gens à l'intérieur?
Oui, mon grand frère est dedans.
Pourquoi?
Il étudie.
Mais pourquoi a-t-il été envoyé ici?
On ne sait pas.
Vous savez ce qu'il étudie?
Le Parti communiste.
Bonjour Angélique Forget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes basée en Chine et on vous reçoit pour ce documentaire que vous avez co-réalisé avec Antoine Védeillet, Ouïghour à la force des camps, qui sera diffusé ce samedi sur France 24 à 22h15 et également sur Arte à 18h30. Alors je rappelle quand même pour les auditeurs, les Ouïghours c'est cette minorité musulmane, turcophone qui vit dans le nord-ouest du pays, dans le Xinjiang. Ça fait très longtemps en réalité que cette minorité ethnique fait l'objet d'une certaine discrimination de la part du pouvoir central. Et l'actuel régime de Xi Jinping ne déroge pas visiblement à la règle, puisqu'il y a maintenant des camps de rééducation qui ont été installés un peu partout sur le territoire, où on enferme les récalcitrants et on leur inculque au fond les valeurs indispensables à la bonne marche de la société chinoise, en tout cas telles qu'elles sont prônées, pensées par Xi Jinping. Votre enquête nous emmène en Turquie, au Canada, au Kazakhstan, en Finlande, mais aussi évidemment en Chine, au cœur de cette région du Xinjiang qui s'est transformé en un véritable état policier. On va le voir dans un instant, mais d'abord Angélique Forget, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même en réalité, qu'il est extrêmement difficile de rentrer dans cette région. Il y a assez peu de journalistes qui y vont. Nous, pour tout vous dire, ça fait des mois qu'on attend qu'un journaliste revienne de cette région-là. Comment est-ce que vous y êtes pris pour y aller?
Oui, alors à la différence du Tibet par exemple, qui est une région dans laquelle les journalistes étrangers ne peuvent pas du tout s'y rendre, au Xinjiang c'est encore possible, mais sur place c'est très 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 compliqué de travailler. Il y a des forces.
C'est une demande classique qu'on fait aux autorités?
Alors on ne fait pas de demande, en fait on se rend sur place. Nous, il y a quelque chose qui nous est utile mais qui est aussi à double tranchant, c'est qu'on a un statut de journaliste en Chine, donc qui d'un côté nous protège, en fait on a légalement le droit de travailler, mais qui nous dérange aussi parce qu'on est rapidement repérable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se fait arrêter par les forces de police, ils voient qu'on est journaliste et forcément après ils nous empêchent de travailler, nous suivent en permanence. Et donc c'est très compliqué de ramener des choses du terrain.
Mais est-ce que vous devez dire que vous allez travailler sur ce sujet?
Ah non, on ne l'a dit à personne. Évidemment.
Alors votre documentaire, Angélique Forget, s'ouvre sur les rives du Bosphore. On est à Istanbul et vous rencontrez Gulbar Djelilovar. Racontez-nous qui est cette femme et pourquoi elle a dû quitter la Chine pour s'exiler à Istanbul.
Alors c'est une femme qui est donc d'ethnie ouïghour, mais de nationalité kazakh, et qui était directrice d'une société d'import-export. Elle faisait des affaires avec la Chine et donc se rendait régulièrement dans le Xinjiang. Une fois, ça faisait 10 ans qu'elle effectuait des voyages régulièrement. Une fois, elle se rend donc à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang. Et là, elle se fait arrêter par les forces de police qui viennent la chercher dans sa chambre d'hôtel.
Pour quelle raison, officiellement?
Alors, dans un premier temps, ils ne lui disent pas. Déjà, ils sont habillés en civil, viennent la chercher, l'amènent dans un immeuble qui ne ressemble pas à un commissariat, l'interrogent. Et là, elle comprend en fait qu'il la soupçonne de terrorisme. Il l'accuse d'avoir effectué des virements à une société turque, mais elle dit ne pas très bien comprendre pourquoi. Et à l'issue de cette interrogation, elle est emmenée dans un camp. À l'époque, personne ne connaît l'existence de ces camps. Donc elle arrive devant un bâtiment qui ressemble à une prison, et là, elle ne peut plus faire demi-tour, ils l'ont enfermée.
Dans quelles conditions elle vit dans ce camp? Et expliquez-nous le régime auquel elle est soumise, parce qu'il y a un programme de rééducation, je mets des guillemets à la formule, qui est imposé aux détenus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme?
Alors, elle, déjà pour les conditions de détention, elle est enfermée dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, dans laquelle il y a une quarantaine d'autres femmes. Et régulièrement, donc une fois par semaine déjà, elle doit regarder des vidéos sur à la gloire de Xi Jinping, à la gloire du Parti communiste chinois. À l'issue de ces vidéos, elle doit régulièrement écrire son autocritique. Puis elles doivent aussi chanter régulièrement, tous les jours d'ailleurs, c'est quotidien, des chants communistes, chanter également l'hymne chinois. Si jamais ils n'étudient pas bien, si leurs enseignants, entre guillemets, voient que ça ne fonctionne pas, qu'ils n'apprennent pas bien, qu'ils ne sont pas de bons élèves, ils peuvent être privés de nourriture et parfois violentés.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de camps qu'il y a sur le territoire du Xinjiang et le nombre de personnes qui seraient détenues, retenues?
Oui, alors il y a des estimations faites par des chercheurs, mais aussi par l'ONU, qui estiment qu'il y a une centaine de camps répartis dans tout le Xinjiang, qui est donc une région grande comme trois fois la France. Et il y aurait entre 1 million, maintenant on parle même de 2 millions de Ouïghours détenus dans ces camps.
C'est-à-dire 10% de la population Ouïghour?
Voilà, alors on parle des Ouïghours parce que c'est l'ethnie minoritaire qui est présente en majorité au Xinjiang.
Enfin, mais il y a d'autres minorités.
Mais voilà, il y a aussi les Kazakhs, les Tatars et les Kirghiz.
Vous vous rendez également à Vancouver, vous rencontrez un jeune étudiant chinois, Chong Jiang, qui est aujourd'hui étudiant à Columbia et qui a été l'un des premiers à prouver l'existence des camps, dont il a même fait une cartographie qu'il a diffusée sur son blog. Comment il s'y est pris justement, et racontez-nous un peu les informations qu'il a réussi à rassembler, parce que c'est ça aussi la grande difficulté.
Alors lui, c'est très intéressant parce qu'il n'a aucun proche Ouïghour, il ne s'était jamais rendu au Xinjiang, c'est pas un militant, il est simplement chinois, il a entendu parler de ces camps, il a eu envie donc de voir dans un premier temps si c'était vrai ou pas. Donc ce qu'il a fait, c'est que sur internet, sur des sites internet chinois ouverts au public, il a recueilli, collecté des documents officiels, comme par exemple des appels d'offres, des commandes de matériel, avec des, voilà, par exemple des choses qui l'alertaient, comme par exemple des commandes de menottes, enfin d'outils.
Où est-ce qu'il a récupéré ces documents?
Sur des sites publics chinois, ouverts et accessibles à tous, si on s'est un peu cherché. Et à partir de ces documents-là et des adresses qu'il a pu trouver sur ces documents, il a utilisé un outil accessible là encore à tous, qui permet de visualiser des images satellites. Et il a vu qu'aux endroits, donc à ces adresses, correspondaient des images satellites de ce qui ressemblait à des camps.
Alors vous êtes rendu évidemment dans Xinjiang, je le disais, pour essayer d'approcher un peu ces camps. Évidemment, vous êtes suivi comme vous nous le disiez, on vous arrête à plusieurs reprises, on vous interroge, on vous contraint de faire demi-tour, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on va voir après que vous finalement vous arrivez à approcher l'un d'eux. Mais ce que vous constatez dans un premier temps, c'est que dans les principales villes du pays, et notamment dans la capitale Urumqi, les gens vivent dans un régime de surveillance, d'ultra-surveillance, c'est-à-dire que c'est avec des systèmes de reconnaissance faciale qui tracent tous les individus. Le Xinjiang, c'est au fond le laboratoire chinois des nouvelles technologies numériques de la surveillance.
Absolument. Pour donner un exemple très concret, lors de notre troisième visite au Xinjiang, on s'est aperçu, et c'est incroyable la vitesse avec laquelle ils ont pu installer ces systèmes, qu'à l'entrée de pratiquement tous les immeubles d'Urumqi, de toutes les maisons, il y a des caméras à reconnaissance faciale. C'est-à-dire que tous les habitants doivent scanner leur visage avant de rentrer et avant de sortir.
Donc, y compris chez eux.
Y compris chez eux. Mmh. Et on a été donc évidemment très surpris de voir ça. Et il y a trois semaines, nous on est correspondants avec Antoine Védier à Shanghai, à l'entrée de mon immeuble, ils ont installé ces mêmes caméras à reconnaissance faciale, les mêmes que celles que j'ai vues au Xinjiang. Et maintenant, je ne peux plus rentrer chez moi, je ne peux plus sortir de chez moi sans
passer devant cette
caméra. Ça, c'est un exemple très concret qui révèle bien que, entre autres, mais que ce qui se passe Là-bas, au Xinjiang, sert vraiment de laboratoire et de zone test. En fait.
Sauf que la différence, c'est qu'à Urumqi, il y a des maisons qui ont été vidées, sur lesquelles il y a des scellés. Et en fait, ce que vous comprenez en interrogeant un peu les gens qui sont dans le quartier, c'est qu'en réalité, ce sont des familles qui ont tout simplement été massivement envoyées dans le camp à côté de Urumqi.
Absolument. Et c'est terrifiant. On sent à quel point la population sur place a peur dès que les personnes apprenaient... Les chauffeurs de taxi, par exemple, ou les commerçants à qui on parlait, dès qu'on essayait de pousser un peu la discussion un peu plus loin, dès qu'ils découvraient qu'on était journaliste étranger, tout de suite ils se raidissaient, ils ne parlaient plus. Ils étaient terrifiés à l'idée de se dire qu'ils pouvaient être accusés de raconter des choses. Ils vivent tous dans la peur et c'est vrai que de voir ces rues vidées, ces commerces fermés, ces appartements, c'est vraiment quelque chose de très concret.
Et puis finalement, donc, vous allez parvenir à vous rendre à quelques mètres de l'enceinte d'un camp, à Rotan, on est là dans le sud de la région du Xinjiang. Vous arrivez devant un bâtiment qui est flambant neuf, et devant l'enceinte, vous rencontrez des proches d'incarcérés. Alors, vous pouvez pas évidemment pénétrer dans le camp, on vous donne pas l'autorisation, mais vous avez pu avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur grâce au témoignage d'une femme que vous avez rencontrée, je crois, au Kazakhstan, Saragul Sotbe. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quelle a été son expérience dans ce camp, elle?
Saragul Sotbe, donc, elle a été chargée donc, d'enseigner le mandarin à des détenus, et ce qu'elle raconte, c'est aussi terrifiant. Donc, elle devait faire répéter des centaines, des milliers de fois aux détenus « Je suis chinois, je suis fier de la Chine ». Donc, on voit bien que l'objectif, c'est vraiment de siniser la population ouïghour, de les transformer en quelque sorte en chinois. Et il y a une jeune femme qu'on a rencontrée, qu'on n'a pas pu mettre dans le reportage, mais qui a une vingtaine d'années, qui a passé 6 mois dans un camp et qui a été libérée sans trop savoir pourquoi, mais qui a reçu à l'issue de sa libération un document qui indiquait que sa phase de rééducation était terminée, qu'elle s'était transformée et qu'elle pouvait sortir.
C'est seulement des violences psychologiques ou c'est aussi des violences physiques?
Alors, les deux...
Donc, parce que dans votre documentaire, je vais aller droit au but, on parle d'injections qui seraient faites aux détenus qui les rendraient totalement amorphes. Enfin...
C'est ça. C'est alors, donc il y a Gulbar Djelilova qui a passé plus d'un an dans un camp et aussi Saragul Sotbe qui a été chargée d'enseigner le mandarin dans des camps qui nous ont toutes les deux raconté des injections. Il y a une troisième personne aussi, un homme qu'on a rencontré, mais que là encore on n'a pas pu mettre dans le reportage, mais qui a lui aussi passé du temps dans un camp et qui nous a raconté lui aussi avoir été soumis à ces injections. Donc, quel est le liquide qui est présent dans ces injections? À quoi ça sert vraiment? On ne sait pas.
Pendant très longtemps, les autorités chinoises ont évidemment rejeté l'existence de ces camps. Et puis finalement, elle les a reconnus. Et non seulement les a reconnus, mais elle les a officialisés.
Oui.
Avec des grandes campagnes de communication dans lesquelles on expliquait ce qu'on fait dans ces camps.
Exactement. Alors, dans un premier temps, donc, ils les ont officialisés, mais ils étaient un peu gênés. Ils ne savaient pas exactement comment les appeler. Donc, dans un premier temps, ils ont parlé de camps professionnels. Ensuite, ils ont parlé d'internat. Maintenant, de camps volontaires. Voilà, ils sont un peu gênés avec la terminologie, mais en tout cas, maintenant, ils en parlent.
Alors, ce qui est aussi particulièrement frappant, Angélique Forget, qu'on découvre dans votre documentaire, c'est que non seulement il y a évidemment cette violence, cette répression à l'égard des Ouïghours en Chine, mais en réalité aussi à l'extérieur des frontières. Il y a un exemple notamment du côté de la France.
Oui, il y a certains membres de la communauté ouïghour en France qui nous ont raconté avoir rencontré des problèmes au moment de renouveler leurs papiers auprès de l'ambassade chinoise à Paris. C'est-à-dire que l'ambassade refuse de leur délivrer ces papiers au prétexte qu'il faut rentrer au Xinjiang pour renouveler ces papiers sur place. Évidemment, ils savent que s'ils rentrent sur place, ils seront très certainement incarcérés.
C'est exactement ce qui est arrivé à Gulbar, qui est une femme qui n'a pas la nationalité française, mais donc qui est installée ici depuis des années, qui a sa famille ici, qui a 2 filles. Et pendant des mois, son ancien patron l'appelait pour, avec un peu d'insistance, disons, lui demander de revenir en Chine pour signer un certain nombre de papiers, ce qu'elle a fini par faire, et elle a été retenue. Est-ce que les autorités françaises font quelque chose justement pour ces personnes?
Alors visiblement, oui, ils sont très
mobilisés,
au courant du dossier, mais là, dans ce cas très précis, c'est difficile d'agir parce que cette femme-là n'a pas la nationalité française, donc c'est un peu plus compliqué techniquement pour la faire rentrer.
Très concrètement, Angélique Forget, qu'est-ce qu'on reproche aux Ouïghours? De quels crimes sont-ils accusés par Pékin?
Alors, officiellement, les autorités chinoises craignent... la menace séparatiste et l'extrémisme religieux. C'est vrai que depuis que la Chine communiste administre la province, donc depuis 1949, il y a une mouvance séparatiste. Il y a aussi certains Ouïghours qui ont rejoint les rangs de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Donc cette menace-là, elle est très certainement réelle, mais elle est infime. Et ce qu'on voit, c'est que la répression est tellement massive et dépasse tellement la menace réelle que cela va au-delà, en fait, des risques.
Mais qu'est-ce qu'on sait justement de ces mouvements séparatistes, de ces mouvements radicaux? Parce que, disons-le, alors je ne vais pas me faire l'avocat de Pékin, ils n'ont pas besoin d'avocat, mais il y a effectivement eu des violences. Alors bien sûr, des répressions absolument terribles, notamment du côté de Urumqi, il y a eu des violences en 2007-2009, des répressions très fortes. Mais il y a aussi eu, du côté de ces mouvements, justement, des actions violentes, des actes terroristes. On a attaqué des postes de police en 2007-2008. Voilà, donc c'est aussi, il y a aussi, semble-t-il, une menace terroriste réelle.
Bien sûr, et on peut parler d'attentats, hein, des événements extrêmement violents. Les Chinois sont tous très marqués, c'est vraiment dans la mémoire collective, cet terrible attentat de Kunming avec une attaque au sabre. Même les événements de 2009 aussi, donc ces révoltes interethniques, il y a beaucoup de Chinois Han, donc qui est l'ethnie majoritaire en Chine, qui ont perdu la vie au Xinjiang. C'est un fait, mais il faut aussi bien comprendre que cette population, depuis que la Chine communiste administre le territoire, elle est véritablement colonisée par les Chinois. C'est une population très éloignée des Chinois Han. Et depuis 1950, depuis les années 50, la Chine envoie en masse des Chinois Han coloniser la région, s'installer. Ils reçoivent en échange des subventions, des aides à l'installation. Donc voilà, c'est vraiment un peuple qui a l'impression de se faire voler son identité.
Cette hanisation justement de ce territoire ouïghour, elle se poursuit aujourd'hui avec Xi Jinping. Est-ce que vous diriez qu'elle s'accélère? C'était pas le sujet directement de votre documentaire, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce processus de remplacement, parce que c'est de ça dont il est question, effectivement, hein, on propose aux Han de venir, on leur propose des aides pour s'installer, des aides au logement, etc., etc., pour justement un peu diluer, d'une certaine manière, la présence de ces Ouïghours dans cette région-là. Ça continue, et est-ce que ça s'accélère avec Xi Jinping?
Ouais, avec Xi Jinping, oui, parce que donc le grand projet de Xi Jinping, c'est les nouvelles routes de la soie, et le Xinjiang est situé exactement sur cette route-là. Donc c'est un territoire stratégiquement très important pour Pékin. Et les nouvelles routes de la soie, c'est vraiment le projet de Xi Jinping. Donc ça passe évidemment par le contrôle de cette région.
Merci beaucoup, Angélique Forget, d'être passée dans nos studios. Pour les auditeurs qui veulent voir ce documentaire, vraiment, je les invite à le faire. C'est un excellent documentaire. Merci beaucoup. C'est donc samedi, 22h15 sur France 24, je ne fais pas d'erreur, et sur Arte, 18h30 dans Arte Reportage. Voilà, on mettra évidemment tout ça sur le site de Culture Monde, sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être passée ce matin. Voilà, et c'est avec cette voix que l'on clôt cette page sur le Xinjiang. C'est celle d'Ablajan Awood, qui est un rappeur ouïghour qui défend la culture ouïghour dans ses chansons et qui lui aussi est retenu dans un camp de rééducation depuis février 2018.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va s'intéresser à l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. Cette semaine, on a fait un pas de plus dans cette escalade, avec Washington qui poursuit sur la voie des sanctions après les nouvelles mesures sur le pétrole et le secteur financier fraîchement décidé. C'est désormais le fer, l'aluminium et le cuivre iranien qui sont visés. De nouvelles mesures qui font suite à l'annonce de la part de Téhéran de la suspension de certains de ses engagements pris dans l'accord sur le nucléaire de 2015.
J'ai vu le rapport, j'ai vu la lettre. Je pense qu'elle était intentionnellement ambiguë. Nous devons attendre de voir quelles seront les actions de l'Iran. Ils ont fait un certain nombre de déclarations au sujet des mesures qu'ils menacent de prendre afin de faire réagir le reste du monde. Nous verrons ce qu'ils feront. Nous allons attendre afin de mieux observer cela. La décision de l'Iran de quitter l'accord sur le nucléaire signifie pour nous une décision de reprendre leur programme nucléaire. Et je suis convaincu qu'en observant attentivement les activités de l'Iran comme nous le faisons, le Royaume-Uni et nos partenaires européens s'assureront que l'Iran n'aura aucun moyen d'acquérir l'arme nucléaire.
Voilà, Mike Pompeo qui dénonce l'attitude ambiguë de Téhéran, qui répète sa détermination à empêcher l'Iran de se relancer dans ses activités nucléaires et d'acquérir l'arme atomique. Alors comment décrypter les récentes déclarations américaines sur l'Iran? Au-delà de la rhétorique, jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller? Une guerre ouverte avec Téhéran est-elle envisageable, envisagée? Voilà la question qu'on se pose avec Clément Terme, Julien Zarifian. Merci encore d'être avec nous ce matin. Et bien sûr, Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, on a l'habitude de ces escalades entre les États-Unis et l'Iran, des escalades verbales très régulièrement, mais c'est vrai que celle-ci, elle a quelque chose de peut-être un peu plus préoccupant d'habitude. D'abord parce que Téhéran, là, riposte et met la pression, on va y revenir, sur les autres signataires, notamment européens, dont il attend visiblement un soutien beaucoup plus clair. Et puis, il y a aussi quelques inquiétudes sur le plan militaire. Il y a cet envoi de nouvelles forces dans la zone, ce porte-avions, ces bombardiers B-52. Il y a aussi ces informations selon lesquelles des groupes armés chiites affiliés à Téhéran pourraient s'en prendre à des intérêts américains dans la région, ce qui voilà peut toujours faire basculer le conflit dans une guerre plus ouverte. Donc la question, au fond, de savoir si la guerre aujourd'hui contre l'Iran, elle est imminente ou pas, cette question-là, on ne peut pas l'écarter complètement, Marc, aujourd'hui.
On ne peut pas l'écarter. Le climat est lourd, mais ce n'est pas non plus la première fois. En revanche, il y a une véritable stratégie américaine qui est aujourd'hui celle de pousser Téhéran à la faute, c'est-à-dire de sortir de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire, ce qui aurait pour effet automatique de rétablir les sanctions internationales. Et pour ce faire, ils misent surtout depuis un an sur leurs propres sanctions unilatérales, qui étouffe l'économie iranienne au nom de l'extraterritorialité de la justice américaine. Washington menace en effet de rétorsion toute entreprise étrangère commerçant avec Téhéran. Alors, la réponse des autorités iraniennes, c'était plutôt faire le gros dos. Mais maintenant, il semble quand même de plus en plus probable que Trump puisse être réélu pour un second mandat. Les effets dévastateurs sur l'économie en Iran des sanctions américaines sont là. Donc, il y a cette annonce d'une remise en cause. Alors, sur des points mineurs de l'accord, c'est ça qu'il faut voir. C'est un coup de canif. L'Iran va cesser de limiter sa production de lourdes et d'uranium enrichi, mais pour le moment, il reste bien en deçà des seuils autorisés. Le retrait américain, le retrait iranien, s'il a lieu, sera lent et surtout réversible. Alors donc, c'est un signal, avant tout aux Européens. Ils les mettent en demeure de trouver des mécanismes compensatoires, notamment bancaire et pétrolier. Ce que les Européens n'arrivent pas à faire, les Européens disent on refuse cette logique de l'ultimatum, mais effectivement ils sont dans le piège et sans aucune marge de manœuvre.
Clément Terme, est-ce que vous diriez qu'il y a là quelque chose d'inédit dans les tensions entre Washington et Téhéran et quel est le risque d'embrasement?
Non, comme l'a dit Marc, ce n'est pas la première fois. Ce qui est nouveau, c'est le contexte régional. À l'époque de Bush Junior, on disait la phrase rhétorique de l'administration précédente républicaine était « toutes les options sont sur la table ». Monsieur Trump ne fait que reprendre cette expression. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle guerre en Syrie depuis 2011, qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a un affrontement au Yémen. Donc, et il y a toujours la guerre d'Irak qui se poursuit, même si c'est à basse intensité. Donc, le contexte régional fait que les risques d'incidents sont plus élevés qu'à l'époque de Bush.
Par contre, il y a un facteur. Pardon, Clément Terme, les informations qu'on a entendues de la part des Américains, selon lesquelles des groupes chiites affiliés à Téhéran pourraient s'en prendre à des intérêts américains, c'est quoi? C'est seulement.
Moi, c'est simplement, je pense que l'administration américaine prend acte de sa propre dérive militariste, c'est-à-dire que le président Obama avait décidé d'ouvrir un dialogue avec l'Iran justement pour cette raison de proximité militaire entre l'Iran et les États-Unis qui sont devenus voisins après la guerre d'Afghanistan de 2001 et la guerre d'Irak de 2003. Donc, à la suite de cette évolution de la politique américaine qui avait commencé à la fin de l'administration Bush Junior en Irak, les Iraniens avaient cessé de soutenir justement les milices chiites et leurs alliés qui sont des acteurs non étatiques dans la région. Ils ne frappaient plus les troupes américaines. Donc, c'était un succès du président Obama qui avait reçu le prix Nobel de la paix à l'époque. Ce qui est positif, par contre, par rapport à l'administration Bush, c'est que il y a une procédure de long terme de la politique étrangère américaine dans la zone de retrait qui a été initiée par le président Obama et le président Trump a été élu sur cette base-là. Donc, ça incite à penser que cette poussée néoconservatrice à laquelle on assiste actuellement aux États-Unis ne s'inscrit pas dans la longue durée de la politique étrangère américaine.
Alors, justement, c'est la question moi, que je voudrais vous poser, Julien Zarifian, parce qu'effectivement, ce qu'on observe, ce qu'on commente maintenant depuis l'arrivée de Donald Trump, Trump, c'est précisément ce repli diplomatique et militaire dans la région. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'effectivement, aujourd'hui, l'administration américaine serait disposée, encline, à engager une guerre ouverte avec l'Iran ? Julien Zarifian.
Non, je ne le pense pas et je rejoins les positions exprimées par les deux intervenants. Ça semble extrêmement probable. Après, une augmentation des tensions ponctuellement, au travers des fameux proxys des uns et des autres, pourquoi pas ? Mais un conflit ouvert, comme vous l'indiquiez, comme une possibilité...
Trump n'en veut pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'évitera.
Alors, c'est très compliqué de savoir ce que veut Trump. Maintenant, est-ce que les États-Unis seront en mesure de sauter le pas, même si à un moment donné, Trump le voulait ? Ça me semble très très peu probable, effectivement.
Marc Zemmo.
Oui, alors... Est-ce que finalement cette politique n'est pas celle de mettre une pression maximum, y compris avec les menaces militaires, pour finalement aller à la table des négociations ? Il y avait déjà eu quand même des coups de sonde à l'ONU, hein, même en 2017, où il avait lancé son discours extrêmement dur sur Rouhani. En même temps, via les Français, il avait proposé une éventuelle rencontre. Finalement, faire le scénario nord-coréen, hein, comme il a fait avec Kim, avec malgré tout un gros bémol, c'est que Rouhani n'est pas Kim, et que sa marge de manœuvre est beaucoup plus limitée. Donc globalement, ça ne servirait pas à grand-chose de rencontrer Rouhani en tête-à-tête, mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée de la part de Trump ?
Julien Zarifian.
Bah écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le sait pas, visiblement, et toutes les sources que j'ai consultées disent la même chose. On ne sait pas quelles sont les fins, les finalités, en fait, de ce mouvement récent là, de la politique américaine de Trump. Donc moi, comme ça, un petit peu intuitivement, j'aurais tendance à dire non. Je ne pense pas que ce soit si élaboré. Et par ailleurs, les gens qui portent un petit peu ce discours, je pense à John Bolton en particulier, sont quand même des radicaux qui n'ont fait que d'exprimer des positions extrêmement dures à l'égard de l'Iran et à l'égard du traité, de l'accord sur le nucléaire.
Qui est le conseiller à la sécurité Donald Trump, rappelons-le, et un opposant notoire à Téhéran.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité qu'il y ait finalement une stratégie différente de Trump et de Bolton ?
C'est possible. Je crois que Trump, alors très récemment, sans doute hier... a dit qu'il est, je ne sais plus quelle est la formule, mais oui, qu'il était prêt à aller à retourner à une forme de négociation, quelque chose comme ça. Donc, c'est possible. Après, on est peut-être aussi simplement dans un petit peu des coups d'épée dans l'eau et des postures très ponctuelles. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que j'ai consulté le New York Times ce matin et on n'en parle plus du tout. En tout cas, dans les headline news, on n'est plus du tout là-dessus. Voilà, bon.
Clément Terme, essayons de regarder ce qui s'est passé maintenant du côté de l'Iran, essayons de voir un petit peu la séquence qu'il y a eu cette semaine, parce que mercredi, l'Iran donne 60 jours aux autres signataires, donc la Chine, la Russie, mais aussi la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, pour mettre en œuvre leur promesse de protéger Téhéran justement contre les sanctions américaines. C'est un ultimatum qui a été assez rapidement rejeté par les Européens, notamment à travers la voix de sa haute représentante pour la politique étrangère, Federica Mogherini. Mais comment est-ce que vous comprenez cet ultimatum ? Au fond, que cherche Téhéran en mettant comme ça, d'abord en mettant sur la table la possibilité de suspendre un certain nombre de ses engagements et en demandant notamment aux Européens de mettre en œuvre justement ces politiques permettant de contourner ces sanctions.
Je pense que l'Iran n'avait pas d'autre choix que de donner un coup de canif, comme vous l'avez dit, à l'accord sur le nucléaire. Et cet ultimatum vise simplement à reprendre le contrôle de la temporalité. C'est-à-dire que les Iraniens ne veulent pas se laisser dicter leur réaction par les États-Unis et ils veulent pas être dans la réaction. Ils veulent eux-mêmes produire un schéma politique qui va les mettre en position de maîtriser les décisions et le temps.
Redevenir maître des horloges, mais c'est quand même extrêmement risqué parce que en gros, ce que demande Téhéran, c'est de prendre parti en fait, c'est choisir son camp, le camp de Téhéran ou le camp de Washington. Les Européens vont faire très vite pour ça.
Non, ça c'est une illusion européenne en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, surtout, je pense qu'il y a eu un discours porté comme quoi l'Europe avait une politique diplomatique internationale et l'Iran était mis en avant comme un succès de l'Europe. Pas du tout, c'est un succès l'administration Obama. Et forcément, une fois qu'on referme la parenthèse Obama, l'Europe redevient ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une variable d'ajustement des changements de la politique américaine. Les Iraniens sont
surtout
tout à fait
lucides. Si on se souvient bien des choses, Clément Terme, en réalité, les Français en particulier avaient été particulièrement durs au moment, étaient contre l'accord de nucléaire.
Aujourd'hui, c'est même ironique de voir ces mêmes personnes qui sont toujours au Quai d'Orsay défendre l'accord alors qu'ils s'y opposaient à l'époque. À l'époque d'Obama, la France poussait à une plus grande réalité de la politique américaine. Mais ce qu'il faut dire ici, ce qui est important pour les auditeurs, c'est que l'Europe n'a déjà pas rempli sa part du contrat. Donc l'Europe ne produit aucun bénéfice économique pour la République islamique d'Iran, ne résiste pas aux pressions américaines, n'est pas souveraine. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux années 90, à l'époque de Clinton, quand les premières sanctions ont été mises en place. À l'époque, l'Europe était à même de protéger ses entreprises et était devenue le premier partenaire économique de l'Iran, avant même la Chine. Et donc, ce qui a changé, c'est pas tellement la volonté politique de l'Europe, parce qu'il faut quand même saluer la position bureaucratique, mais il n'y a aucun effet économique, parce que les entreprises européennes aujourd'hui, dans la globalisation, n'obéissent pas au Quai d'Orsay. Donc c'est l'impuissance de la puissance, pour reprendre l'expression du professeur Badi, mais dans un sens qui est une humiliation pour les Européens. C'est pour ça qu'ils sont très silencieux, parce que ils se font dicter leur politique par Washington, et en même temps, ils ont l'impression d'avoir raison sur le fond. Et donc c'est vraiment un paradoxe d'être dans la légalité internationale, d'avoir une position intelligente, mais d'avoir aucun moyen de la mettre en œuvre.
Parce qu'en réalité, le dispositif de contournement des sanctions qui a été mis en place par Bruxelles, le fameux Instex,
c'est pas un contournement. Je vous corrige, parce qu'en fait, ils ont même dit qu'ils allaient appliquer les sanctions américaines.
C'est un dispositif de change, de
troc. Non, juste de permettre le commerce légal autorisé par les États-Unis. Donc même, si vous voulez, l'ambition de souveraineté affichée sur le plan bureaucratique est vraiment très minime. Donc il y a aucune crédibilité. Le risque pour l'Europe est beaucoup plus vaste. C'est une perte de crédibilité de la parole européenne, parce que quand on signe avec l'Europe, en fait, on signe avec un groupe de pays qui suivent les États-Unis. Et donc, dans le futur, c'est un mauvais signal qui est envoyé, si vous voulez, sur la scène internationale par les Européens, cet alignement progressif sur la position de l'administration Trump.
Marc Semo, puis Julien Zarifian.
Oui, mais justement, sur ce point, Clément souligne à raison le rôle de la globalisation, la grande différence par rapport aux années 90, et les Européens ne sont pas les seules victimes. Parce qu'on voit que la Chine, qui soutient Téhéran, qui a dénoncé le retrait américain, etc., parlons même pas de la Russie, elle aussi est extrêmement réticente. Et même si officiellement, elle dit on continue, toutes les entreprises chinoises, et notamment celles du pétrole, sont en train, petit à petit, de ne plus répondre au téléphone, voire de quitter l'Iran, d'être de plus en plus profil bas, parce qu'elles aussi ont besoin, maintenant la Chine veut investir beaucoup aussi aux États-Unis, elles aussi, le marché américain est quand même plus attrayant que l'Iran.
Julien Zarifian.
Et les États-Unis et la Chine sont en grande négociation en ce moment même, au sujet justement de ces tarifs douaniers. Voilà, donc la Chine doit nécessairement être prudente, et à mon avis, elle fait preuve d'une prudence peut-être un peu plus grande que ce qu'on pouvait attendre s'agissant de son positionnement sur les événements de ces derniers jours. La Russie n'est pas trop sortie du bois non plus, d'ailleurs.
On va parler de la Chine et de la Russie, mais dans un deuxième temps, si vous le permettez, je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur l'Europe, si vous le permettez. Faisons des hypothèses. Clément Terme, Téhéran, effectivement, se désengage d'un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris au moment de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe ? Est-ce que l'Europe pourrait décider de sanctions contre l'Iran ?
Ah oui, bien sûr, parce que en fait, ce qui se passe depuis la victoire de l'administration Trump, c'est que les radicaux dans les pays européens sont de plus en plus puissants. C'est-à-dire ce qu'on appelle en France les gaullo-mitterrandiens avaient repris un peu avec l'élection du président Macron et cette poursuite de l'accord sur le nucléaire iranien et surtout l'impulsion donnée par Barack Obama avaient repris un peu de puissance dans le système bureaucratique. Aujourd'hui, on voit que finalement beaucoup de personnes en France, notamment et en Angleterre également, soulignent la nécessité de coopérer plus avec les États-Unis, puisque l'argument avancé est très simple et élémentaire, c'est que ce que partagent les États-Unis et l'Europe par rapport à l'Iran est plus vaste que ce qui les sépare. C'est-à-dire, ils partagent l'analyse sur la politique régionale de l'Iran, ils partagent la crainte par rapport au programme balistique iranien, et même M. Trump a fait, vous le savez, une seule référence aux droits de l'homme, il s'agit de l'Iran. Donc là aussi, la question des droits de l'homme est mise en avant comme point commun, point de collaboration entre l'administration Trump et les Européens.
Donc, le
point
donc de pas divergence, de doute que les Européens iront vers des sanctions.
Non, ça dépend de l'Iran, mais par contre, il faut aussi voir qu'il y a la capacité de la Russie et de la Chine, et là j'aurais une légère divergence avec Marc, à résister au diktat américain, parce que la monnaie chinoise est souveraine, ce qui est une différence avec l'euro qui est convertible en dollars, et donc il y a des systèmes de troc qui sont mis en place et qui existent et qui vont continuer à se poursuivre. Là où Marc a raison, c'est sur les grands projets pétroliers de plusieurs milliards, mais sur des projets plus petits de quelques dizaines de millions de dollars, les entreprises chinoises et russes vont être présentes sur le marché iranien, et ne sont pas aussi sensibles aux pressions américaines. Il y a, si vous voulez, des degrés dans la vulnérabilité économique à l'extraterritorialité des lois américaines. Et l'Europe est particulièrement exposée du fait de sa grande présence sur le marché américain, alors que les Chinois et les Russes, dans les domaines souverains comme le commerce des armes, le nucléaire civil, ne sont pas exposés puisqu'ils ne sont pas présents sur le marché américain.
Marc Semo.
Oui, mais alors justement, est-ce qu'au niveau des Européens, la vraie question n'est pas que les Européens, à commencer par les Français, ont, dès le début, souligné les limites de l'accord. Et que, effectivement, là-dessus, il y
devant
a...
Le micro, Marc, devant le micro.
Il y a effectivement des points communs entre Donald Trump et Emmanuel Macron sur le fait que cet accord tel qu'il est est une partie des, règle une partie des problèmes, mais pas tout. Elle ne règle pas, comme le disait Clément, la question balistique. Et surtout, cet accord, la plupart de ses clauses vont arriver à échéance dans 10 ou 15 ans, ça dépend des clauses. Donc, de la nécessité de compléter l'accord. Et donc, il y a cette idée qu'on ne peut pas en rester simplement à la défense de cet accord, mais qu'il faut aller au-delà. Et là-dessus, effectivement, il y a des convergences réelles.
Mmh. Julien Zaritian.
Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Oui, non, moi, j'ai pas grand chose à ajouter sur l'Europe et sur cette position délicate qui est la sienne et ce problème d'interdépendance avec les États-Unis. Et je pense que ça a été bien expliqué. Et c'est le...
Eh ben, on va poursuivre dans quelques instants. On va faire une petite pause. Il est 11h36. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. L'heure pour nous de retrouver notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Ces caricaturistes du monde entier. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux!
Assis!
Bonjour Marguerite, c'est vous qui aujourd'hui nous présentez le dessin du jour.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors l'Iran nous apparaît sous un bien triste jour aujourd'hui.
Paresh, un dessinateur d'origine indienne qui publie dans la presse émiratie, nous projette dans l'antre diabolique d'un scientifique qui semble aussi fou que solitaire. Un infâme bricoleur qui rappelle le cher oncle de Boris Vian dans la valse des bombes atomiques. Partout autour de lui s'enchevêtre dans le plus grand désordre une machinerie impitoyable de conduits, canaux, tubes et canalisations, un véritable dédale de fer et de plomb. Comme doué d'une vie propre, les tuyaux se tordent et se nouent, ils craquent et se disloquent dans un système visiblement en surchauffe, sur le point de s'effondrer, et déjà des pans entiers de l'infernale plomberie dégringolent au sol. Mais le scientifique s'entête. Une clé plate entre ses mains gantées, il fourrage dans les entrailles d'une ogive nucléaire où règne le pire fouillis de pistons, tubes et tuyaux coudés. Sur le béton au sol, entre les flaques d'huile, les débris et les morceaux de plomberie, il a soigneusement déplié un grand carré de tissu rose, nappe ou dessus de lit, incongru dans cet univers sinistre. Un à un, il y dépose écrous, boulons et autres pièces, il s'affaire. Le monde pourrait crouler, il continuerait. Une bombe, à tout prix, voilà ce qu'il veut. Mais notre ingénieur n'est pas serein, non. Les sanctions américaines ont déjà mis à bas la moitié de l'édifice. Le robinet de l'aide iranienne au terrorisme international gît au sol, conduit trompu. Le tuyau des industries pétrolières et des exportations est bouché, sur le point d'exploser. Celui des importations aussi. Vraiment, la catastrophe est imminente. « We are never bowing to that pressure », clame cependant notre homme à plein poumon. « Jamais nous ne plierons sous leur pression », croit-il savoir. Alors que le conduit des sanctions américaines pèse de plus en plus lourd sur son échine courbée. Menacé d'implosion, délabré au plus haut degré, l'Iran, nouveau paradis des ferrailleurs, poursuit seul sa course à l'abîme.
Merci beaucoup Marguerite Caton. Ce dessin, évidemment, on le retrouve sur le site de France Culture, sur les réseaux sociaux, le fil Twitter de Culture Monde, etc. etc. Clément Terme, un commentaire peut-être sur ce dessin, et peut-être en particulier sur la question de savoir si effectivement Téhéran va chercher à avoir l'arme nucléaire, compte tenu de l'évolution des choses.
Alors je pense que ce que montre ce dessin, c'est que finalement... Au final, les gouvernements vont défendre des positions de souveraineté, vont résister, etc. Mais que ce sont les populations, et notamment la population iranienne, qui va être victime de cette escalade. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent pris entre la poussée néoconservatrice américaine, alors que l'Iran n'a pas changé de position à respecter l'accord. Donc ce qu'expliquait Marc, c'est toujours de rajouter des nouvelles conditions, de compléter, comme le disait le président Macron, la fameuse expression du nucléaire élargi, alors que justement l'accord sur le nucléaire avait été négocié et limité au domaine nucléaire, parce que c'était trop complexe d'aller au-delà, et c'était pas possible d'avoir ce qu'on appelait le mythe dans les années 2000 de la grande négociation, le grand bargain entre l'Iran et la communauté internationale pour régler l'ensemble des problèmes. En fait, comme c'était trop ambitieux, le président Obama avait décidé de réduire le spectre de l'ambition de l'accord et de le limiter au nucléaire. Mais aujourd'hui, on voit que ce mélange des genres qu'a produit la diplomatie américaine va conduire à l'appauvrissement de la population et à une situation régionale très tendue. Et ça peut même, cet effondrement économique en cours en Iran, aussi avoir des conséquences régionales, parce que s'il y a un risque de guerre, ça va créer de très nombreuses incertitudes. À court terme, bien sûr, les pays voisins vont bénéficier parce que les exportations iraniennes de pétrole sont en train de se réduire, donc ils vont prendre des parts de marché. mais ça peut créer une situation tendue. Mmh. Si, parce qu'il y a quand même un État en Iran, et on a déjà des États faillis en Irak grâce aux néoconservateurs et en Afghanistan. Donc je pense que l'idée de l'effondrement de l'Iran n'est pas partagée par les voisins. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre optimiste, c'est-à-dire que il y a de nombreux États dans la région qui partagent officiellement la politique américaine, mais qui en craignent les conséquences.
Julien Zarifian, Donald Trump a laissé entendre dans un communiqué qu'il était prêt, qu'il souhaitait, c'est ça qu'il a dit, qu'il souhaitait effectivement, pourquoi pas, rencontrer les dirigeants iraniens et peut-être même mettre en place un nouvel accord. Il le pense vraiment, il souhaite rencontrer les Iraniens et il va travailler pour un nouvel accord ?
Alors, par chance ou pas, je suis pas dans la tête de Donald Trump. Et je commence en disant par chance ou pas parce que...
Vous n'êtes pas le premier à dire ça.
Personne n'y est véritablement. Est-ce que Trump va travailler ? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit l'idée immédiate. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé par ailleurs du rôle d'Israël. Enfin, on a parlé un petit peu des acteurs régionaux et c'est important, mais il y a aussi un certain nombre de pressions qui émanent d'Israël de manière directe et indirecte, de manière de...
Pour le coup, c'est une constante, c'est un invariant.
Oui, absolument. Ça, c'est vrai.
Israël est toujours prêt à faire la guerre à l'Iran, en gros.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'empêche que là, derrière quand même les évolutions récentes, il y a un soutien clair de Benjamin Netanyahou, de certains groupes juifs pro-israéliens à Washington. Donc ça compte quand même. Donc se remettre à la table des négociations côté Trump, moi j'y crois pas vraiment. En même temps, la question de la temporalité qui a été un petit peu évoquée là par Marc et Clément est quand même intéressante. C'est vrai que dans 10 à 15 ans, l'accord sur le nucléaire sera à reprendre et sera caduque en définitive. Hein, on peut l'exprimer comme ça, puisqu'il a été pensé sur une temporalité. Et c'est l'argument principal et qui peut être un peu valable, donc on peut considérer comme valable aux États-Unis des gens qui s'y opposent. C'est de dire que cet accord... Déjà, selon eux, ne règle pas le problème du nucléaire de manière immédiate, parce qu'il n'y a pas assez de sanctions, etc., pas assez de contrôle, selon eux. Et surtout qu'il ne le règle pas sur des temps un peu plus longs. Mmh. Donc, de toute façon, cette question d'un retour à la table des négociations, elle va intervenir, je veux dire, plus vite même qu'on ne le pense, puisque cet accord court jusqu'à 10-15 ans, comme ça a été indiqué.
Clément Terme, les Iraniens, ils sont disposés évidemment, j'entends ce qu'ils disent, donc très clairement, officiellement, c'est non. Mais, compte tenu des conditions, est-ce qu'effectivement, ils vont pas y être contraints et il va falloir effectivement se remettre à la table de négociation et discuter avec l'actuelle administration américaine ?
Pour l'instant, la stratégie, je pense, c'est d'attendre les prochaines élections en Iran. C'est-à-dire qu'on a des élections législatives en 2020 et présidentielles en 2021. Ouais. Donc l'idée, c'est, pour l'instant, nous sommes dans l'ère de la modération avec le président Rouhani, la modération entre guillemets, évidemment, mais on va pas faire une surenchère sur la rhétorique guerrière américaine. Mais vu qu'on rentre dans une période électorale en Iran, il est probable, en tout cas, que l'effet dans la politique iranienne de cette nouvelle politique de Trump soit de produire un président radical en Iran. Et donc d'avoir face à face des radicaux. Donc.
Mais on est déjà un peu dans ce cas-là, en réalité, Clément Terme. Vous dites on est dans l'ère de la modération. Effectivement, le pari de Hassan Rouhani, qu'on décrit comme un modéré, effectivement, c'était de négocier un accord sur le nucléaire, espérant que ça allait permettre à Téhéran de sortir de son isolement diplomatique et surtout d'enclencher ce cercle vertueux qui allait permettre de développer l'économie du pays. Or, de fait, ce pari, il est perdu. L'accord est déchiré, l'économie iranienne est dans une situation extrêmement préoccupante. Alors la question qu'on peut se poser, Clément Terme, c'est qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce fameux camp modéré en Iran ? Est-ce que ils ne sont pas totalement disqualifiés face au camp plus conservateur ?
En fait, je pense que le guide a retrouvé sa position d'arbitre, que d'un côté, il utilise le président Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Zarif pour la survie du régime. Et de l'autre côté, les gardiens de la révolution sont là pour projeter l'idéologie de la révolution islamique sur la scène régionale et internationale. Pour l'instant, il y a un équilibre, c'est-à-dire que l'Iran n'est pas encore dans une surenchère militaire. La réponse est modérée aux actions américaines. La rupture des exportations de pétrole iranienne, c'est quand même un acte violent qui a été produit par les États-Unis. La rhétorique de John Bolton, qui quand même dans les articles qu'il a produits lui-même en tant que consultant pour Fox News ou par ailleurs dans des revues américaines, ou dans le New York Times prennent position en faveur d'un bombardement de l'Iran. Donc, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse militaire massive de l'Iran contre les soldats américains stationnés dans la région. Donc, on peut imaginer le pire. Donc, je pense qu'on saura si cette modération existe dans 2 ou 3 ans, quand on verra ce qu'un conservateur pourra faire, si le régime tient. Après, le pari des Américains, c'est l'effondrement, c'est le changement de régime. C'est pour ça que je rejoins Julien.
Et ce pari peut être gagné ?
Tout est possible dans la région, mais c'est un pari très risqué, parce que même s'il est gagné, qu'est-ce qui viendra après la République islamique? Oui, on ne sait pas, il y a une inconnue. On voit le chaos irakien, on voit le chaos syrien, on voit le chaos afghan, le chaos libyen. Donc tous ceux qui sont des défenseurs des interventions militaires revisitent, si vous voulez, l'intervention après, le jour d'après. C'est toujours comme ça.
C'est effectivement ce qui se dit à Washington. Il n'y a pas de plan, en fait, véritable. Il y a une rhétorique là qui s'est donc accentuée ces derniers jours, mais il n'y a pas de plan.
Le plan, c'est de faire tomber le régime.
Voilà, et c'est vrai que ça a même été dit clairement. John Bolton, a parlé de bombardement, a aussi dit clairement qu'il souhaitait un changement de régime. Je crois qu'il l'a dit avant d'être nommé au National Security Council. Donc, mais quand même, donc il y a cette volonté-là, mais il n'y a pas vraiment de plan. Je suis pas sûr qu'il y ait une connaissance très fine des réalités complexes de Téhéran, des dynamiques internes. Voilà, remplacer le régime. Par quoi? Par qui? Comment? Ça, je pense pas qu'on soit à un niveau d'aboutissement.
Donc, on n'a pas tiré les leçons des mandats de Barack Obama, parce que quand il était parti de la Maison-Blanche, je sais pas si vous vous souvenez, mais on lui avait demandé, finalement, quelle était l'une des grandes leçons en termes de politique étrangère qu'il avait tirées, et il avait dit, il faut toujours penser au coup d'après, au jour d'après. Si c'est pour intervenir, et qu'on n'a pas pensé la suite, il faut pas le faire. Ça, c'était la leçon qu'avait tiré Barack Obama. Visiblement, on n'a pas compris du côté de l'administration américaine actuelle.
Je pense que certains, beaucoup en fait, l'ont compris. Et je pense que dans certains milieux, encore aux manettes, notamment au département de la Défense, probablement aussi au département d'État, il y en a qui sont encore dans ces enseignements et dans ce qu'on appelait une lassitude de la guerre qui a quand même duré assez longtemps, la guerre en Irak et la war fatigue, il disait. Bon, je pense qu'il y en a encore qui sont dans cette conscience-là de la difficulté d'intervenir militairement au Moyen-Orient. Et voilà, et donc il y aura, je pense, des garde-fous, et pour répondre à votre question sur l'imminence d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran, je pense qu'à Washington, il y aura des garde-fous de toute façon. Mais c'est vrai que Trump et autour de Trump, il y a visiblement des gens qui sont encore dans cette logique-là.
Clément Terme.
Alors, il y a un problème dans l'administration américaine sur la question iranienne. D'abord, il n'y a pas de relation diplomatique, donc il n'y a pas d'ambassade des États-Unis à Téhéran. Donc, la perception iranienne de la réalité n'apparaît pas dans l'administration. Ensuite, Brian Hook, qui est le représentant pour Trump sur l'Iran, en fait, a procédé à des nominations politiques. Ça veut dire que toute l'équipe qui travaille pour lui pense comme John Bolton. Donc, il y a eu une purge qui a été effectuée de tous les analystes qui travaillaient pour Obama, tous les gens qui avaient une connaissance, si vous voulez, de la situation de l'Iran, etc. Il y avait beaucoup de membres de la diaspora iranienne, notamment, qui avaient joué un rôle. Et donc, tout ça, c'est fini parce que, contrairement à d'autres sujets, le sujet iranien dans l'administration américaine est hautement politisé et il n'y a pas des diplomates de carrière qui sont en charge de cette question. Donc, il faut aussi rappeler que c'est que depuis 2006, c'est Condoleezza Rice qui a une équipe qui travaille sur l'Iran au département d'État. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils avaient créé l'équipe à l'époque, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait négocier avec l'Iran en 2008. Donc, si vous voulez, ce déni de réel qui a lieu en ce moment aux États-Unis est très inquiétant parce que quand on a une politique idéologique, la question, c'est dans quelle temporalité, dans quelle durée sera nécessaire pour que la confrontation avec le réel arrive. Donc ça va dépendre de la capacité de résilience du régime iranien. Et est-ce qu'ils vont réussir à maîtriser, parce que leur faiblesse, c'est l'absence de soutien populaire massif à la République islamique. Et donc les Américains travaillent ça.
Est-ce que ça va dépendre aussi, Clément Terme, de la Russie? Parce que s'il y a un pays qui a des relations, pour le coup, avec l'Iran, c'est la Russie. Vous en savez quelque chose? Vous aviez écrit un livre sur ce sujet, les relations entre Téhéran et Moscou, depuis 79. Il se trouve que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue iranien en début de semaine. Les Russes, visiblement, eux, ne lâchent pas les Iraniens.
Non, d'ailleurs, la décision iranienne, la réaction modérée au retrait américain après les 1 an, et surtout le classement, on n'en a pas parlé, mais des gardiens de la révolution comme organisation terroriste étrangère et l'arrêt des exportations de pétrole qui est demandé par les États-Unis a été coordonné. Cette décision iranienne a été coordonnée avec Moscou et Pékin.
Donc, peut faire Moscou, là, aujourd'hui?
Alors, Moscou va se poser en puissance médiatrice, comme il le faisait déjà dans les années Bush. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme un pivot diplomatique au Moyen-Orient. On le voit sur la question syrienne avec le processus d'Astana. Donc, comme l'Europe est incapable d'avoir une politique indépendante, ça va permettre à une voix russe indépendante d'émerger encore sur cette question nucléaire iranienne et de défendre, en fait, la paix, la stabilité, un risque de guerre. Un peu comme on avait vu, si vous voulez, au moment de la guerre d'Irak de 2003. La question, c'est est-ce que l'axe entre Paris, Berlin et Moscou va se reconstituer? Et là, rien n'est moins sûr, parce qu'en France, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle génération de diplomates qui est arrivée aux manettes, ce qu'on appelle les néoconservateurs à la française. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie question. Si vous voulez, Trump a quand même une marge de manœuvre qui semble beaucoup plus importante que Bush Junior au niveau des États européens sur la question iranienne. Il a un soutien assez important.
Julien Zarifian, sur le cas de la Russie.
Écoutez, sur la Russie, ça a été très bien dit par Clément, et j'irai pas mieux et pas plus loin que lui. Moi, j'aurais bien aimé revenir rapidement sur les États-Unis. On en a un peu parlé, mais je parlais de garde-fou. Faut pas oublier non plus que le Congrès peut avoir son mot à dire sur cette question. Et que la position du Congrès, je veux dire, sur la question de la possibilité d'une guerre, puisque j'y reviens, c'était le thème quand même central entre les États-Unis. Donc, au Congrès, il y aura des résistances considérables. J'ajoute aussi, je reviens sur cette notion de temporalité. On a parlé des élections en Iran. En novembre 2020 auront lieu les élections aux États-Unis. Moi, je pense que s'il fallait entamer une guerre, ce qui me semble assez peu probable, ou même vraiment un durcissement significatif qui implique quand même des soldats américains, etc.
C'est un risque pour la réélection de Trump.
Considérable. Et je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que là, ils haussent le ton maintenant, parce que là, on est sur les derniers moments où peut-être il pourrait y avoir une possibilité de durcissement. Mais après, on rentrera dans la période dès l'automne, dès cet été, mais plutôt dès l'automne, on sera déjà dans la campagne présidentielle.
On est déjà dans la campagne du côté des démocrates, en réalité, on est déjà engagé dans la course.
Donc ça me semble être un élément aussi important.
Clémentin, vraiment, le mot de la fin. En guise de conclusion.
Non, c'est juste pour dire que le problème, c'est que là, on est face à une guerre économique pour l'instant. On n'est pas dans un affrontement militaire et que les victimes seront, une fois de plus, la population iranienne. Et c'est un paradoxe parce que les États-Unis prétendent défendre le changement de régime et soutenir la démocratie. Donc, les idées qui sont professées, en fait, entrent en contradiction avec les outils qui sont utilisés et leurs conséquences. All this blessed land, and this I cannot understand. A weapon of destruction to destroy its everyone. When that hell bomb falls, when that hell bomb falls, they'll be screaming, dying, praying when that hell bomb falls.
Merci beaucoup à tous nos invités. Clément Terme, je rappelle que vous êtes chercheur pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut International d'Études Stratégiques, et je rappelle également auteur de Les Relations entre Téhéran et Moscou depuis 79, mais aussi que vous avez participé à ce numéro de Confluence Méditerranée, ce numéro du printemps 2018 paru chez L'Armatant, Moyen-Orient, le pivot russe. Un grand merci à vous, Julien Zarifian, d'avoir été avec nous ce matin. Vous concernant, allez, je citerai Choc d'Empire, point d'interrogation, les relations États-Unis-Iran du 19e siècle à nos jours. C'était aux édition Hémisphère. Merci infiniment à vous. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous arrivez avec du nouveau sur cette fameuse polarisation politique qu'on constate dans de nombreux pays.
Qu'est-il arrivé à nos démocraties relativement consensuelles où les majorités et les oppositions se considéraient mutuellement comme des partenaires et non pas comme des ennemis mortels ? Jennifer Lynn McCoy a conduit une étude portant sur 11 pays, dont les États-Unis, mais aussi la Turquie, le Venezuela, la Hongrie, la Thaïlande, des pays où l'on constate cette fameuse polarisation du débat politique. Des pays où, comme elle l'écrit, les sociétés éclatent en tribus, chacune persuadée d'avoir infiniment raison quand les autres ont infiniment tort. Partout, elle a trouvé les mêmes causes à cet état de fait désastreux pour la démocratie. Et d'abord, des leaders qui diabolisent leurs adversaires, les décrivant non seulement comme corrompus et immoraux, mais comme des représentants d'intérêts étrangers à la nation, des ennemis du vrai peuple que seuls prétendent incarner et défendre. Ces politiciens démagogues se servent d'une rhétorique incendiaire et exploitent à leur propre profit les sentiments d'injustice partout présents. Ils jettent de l'huile sur le feu dans le seul but de parvenir au pouvoir. Mais lorsqu'ils y parviennent, relève-t-elle, ils ont une fâcheuse tendance à s'y accrocher de façon non démocratique. Face à des opposants décrits comme une menace pour la nation, tous les moyens sont bons. Des soupçons pèsent sur Donald Trump à cet égard. Michael Cohen, l'ancien avocat du président américain, qui vient d'ailleurs d'entrer en prison, a jeté un froid devant la commission du Congrès qui l'auditionnait en février en déclarant, je cite, « Si Trump perd les élections de 2020, le passage de pouvoir ne se passera pas tranquillement. » Dans le cas des États-Unis, McCoy relève la montée de l'incompréhension entre les partisans des deux partis qui se partagent le pouvoir. En 2017, 70% des électeurs républicains disaient qu'ils avaient une mauvaise image des démocrates et autant de démocrates ont une mauvaise image des républicains. Dans un sondage qui datait des années 90, il n'était que 20% dans ce cas.
Et tout ce que les États-Unis brisent compte de politologue est entré dans le débat sur l'origine de cette fameuse polarisation, justement.
Eh bien, peu savent reconnaître, comme Jennifer Lynn McCoy que je citais, que nous avons affaire à un phénomène général, pratiquement commun à toutes les démocraties. Mais aux États-Unis, il surprend davantage, parce que le pays était habitué à ce que les deux grands partis ne soient pas idéologiquement homogènes. Et c'est sur cette base que les présidents parvenaient à bâtir au Congrès des majorités transpartisanes, et c'est devenu extrêmement difficile. Dans la New York Review of Books datée d'hier, on trouve un article très intéressant à ce sujet dans lequel Sean Willens, un professeur d'histoire américaine de Princeton, discute un essai récemment publié par un commentateur politique fameux, Michael Tomasky, qui s'appelle « If we can keep it, how the Republic collapsed ». Deux idées principales ressortent de ce livre. La première, c'est que la vie politique américaine a toujours été marquée par des contrastes et des oppositions très marquées. Seule la période 1945-1980 a été un moment de relatif consensus entre démocrates et républicains à cause de la guerre froide. Mais ce fut une parenthèse exceptionnelle. Pour Tomasky, même s'il s'en est servi pour parvenir au pouvoir, la polarisation politique américaine est antérieure à Trump. Il l'a aggravé, c'est sûr, parce que c'est son moteur, cliver, hystériser les débats. Deuxième idée forte, c'est la polarisation intra-partie qui a affecté tant les républicains que les démocrates. Les deux grands partis américains ont en effet longtemps été des coalitions relativement hétéroclites d'intérêts et d'idéologies diverses. Il rappelle que la grande coalition qui a porté Roosevelt au pouvoir comportait certes des syndicalistes, des libéraux du Nord, mais aussi des démocrates du Sud, partisans de la ségrégation raciale. Roosevelt lui-même avait envisagé en 1944 d'abandonner cet électorat raciste pour tenter de séduire les libéraux républicains. S'il l'avait fait, selon Tomasky, cela aurait donné naissance au système politique qu'on observe aujourd'hui, bien trop idéologisé. Pour lui, les modérés des deux partis les ont quittés durant la présidence Reagan. C'est le fameux « missing middle », le milieu manquant. Du coup, leurs dirigeants ont cessé de devoir nouer les fameuses coalitions en interne avant de se lancer dans la course au pouvoir. Il reconnaît que du côté républicain, Trump a aggravé les choses en débarquant ceux qu'il appelle les « squishy » ou « low energy republicans », les républicains mollassons à basse énergie, personnifiés par ce malheureux Jeb Bush. Mais Tomasky a tort, aux yeux de Willens, de renvoyer dos à dos les deux partis. Pour ce dernier, le parti républicain n'est plus qu'un parti minoritaire qui ne survit et ne prospère que grâce à de l'argent pas net. Aux États-Unis, les coupables de l'hystérie politique actuelle se trouvent tous du même côté, à droite.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve lundi, cher Brice, bon week-end.
Merci.
Mais dans un très court instant, ce sera Olivia Gesbert et La Grande Table.